En réalité, le titre exact de ma conférence, c'est les trous noirs et la forme de l'espace. J'ai fait rajouter effectivement la forme de l'espace parce que la problématique des trous noirs, qui m'est chère évidemment depuis longtemps, n'a que partiellement un aspect cosmologique. Et donc j'ai voulu prolonger la discussion sur les trous noirs, qui concernent aussi un certain aspect de la forme de l'espace, à une vision plus globale que l'on peut avoir aujourd'hui sur la forme de l'univers. Alors effectivement, trou noir et forme de l'espace, c'est l'une des questions qui me fascine vraiment depuis maintenant 30 ans au moins, en tout cas depuis que j'ai ouvert une encyclopédie d'astronomie lorsque j'étais adolescent dans mon Vaucluse natal et que j'ai lu une page sur la relativité générale d'Einstein, à laquelle évidemment je ne comprenais rien à cette époque. Et cette page disait que dans la conception relativiste, l'espace et le temps avaient la forme d'un mollusque. Cette image m'avait beaucoup intrigué, à la fois par son caractère poétique et son caractère mystérieux, et depuis je n'ai eu de cesse que de tenter d'élucider ce que pouvait bien signifier ce mollusque universel, ce mollusque d'espace-temps. Et c'est vrai que dès lors, je n'ai plus jamais contemplé les cieux de ma Provence natale dans le même œil, car désormais je n'ai plus regardé les beautés des étoiles, mais j'ai regardé plutôt ce qu'il y avait autour, ce qui contenait les étoiles, c'est-à-dire l'espace. Et je me suis posé des questions. Cet espace impalpable qui contient les étoiles, est-ce qu'il a une forme? Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'il est courbé? Est-ce qu'il est cabossé? Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce qu'il est lisse? Est-ce qu'il est plié? Et qu'est-ce que ça signifie au juste d'ailleurs de dire que l'espace a une forme? Parce que c'est vrai, je crois que pour le sens commun, l'espace, c'est une sorte de réceptacle vide et sans forme qui accueille les corps. Donc il est difficile d'imaginer qu'il a une forme.
Ou je baisse la tête.
Et à propos de l'espace, certaines vues philosophiques au cours des siècles ont tenté de donner chair à cette conception de l'espace, à ce réceptacle, en le considérant par exemple comme un matériau, une substance éthérée, qui non seulement contient les objets, mais qui peut-être les imprègne et partage certaines de ses propriétés avec les corps matériels que l'espace contient. Mais pour parler réellement de la forme de l'espace, pour un scientifique, eh bien, ces questions-là ne sont pertinentes que si on utilise la branche des mathématiques qui permet de parler de l'espace, c'est-à-dire la géométrie. Quel est l'espace mathématique qui est susceptible de représenter l'espace réel, l'espace physique? Eh bien, le problème est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pourrait croire à première vue. Par exemple, il est clair que les mondes microscopiques et les mondes macroscopiques, c'est-à-dire à très très grande échelle, diffèrent profondément de l'espace immédiat qui nous environne, qui, selon notre intuition géométrique, c'est l'espace de la géométrie euclidienne ordinaire que nous avons tous apprise sur les bancs de l'école. Et donc, en fait, je voudrais introduire cette conférence par un transparent un peu sauvage, et je m'en excuse, mais le reste sera plus doux, qui montre en fait les quatre niveaux de la géométrie auxquels la physique actuelle tente de donner réponse quant à la question de la forme de l'espace. Est-ce que c'est correct, là, la luminosité? Alors donc, il y a quatre échelles de la géométrie qui ne rentrent pas toutes comme il se doit dans le transparent. Donc, on va faire un travelling. Voilà, merci. L'échelle habituelle, c'est l'échelle qui est ici, où en fait, il semble, en première approximation, que la géométrie de l'espace, elle est euclidienne. Alors évidemment, ici, je ne vous montre pas le vrai espace, je vous montre simplement des surfaces réduites à deux dimensions, alors qu'évidemment, dans tout mon exposé, je parlerai de la forme de l'espace, au moins tridimensionnelle, sinon quadridimensionnelle, si on incorpore le temps, et éventuellement avec des dimensions supplémentaires, si l'on fait appel à des théories de physique des particules de hautes énergies. Mais donc, en première approximation, à notre niveau, eh bien, la géométrie semble euclidienne, c'est-à-dire un espace faiblement courbé, donc toutes les lois de la géométrie euclidienne s'appliquent pour ce type d'espace. Et alors, c'est vrai que dans la théorie de la relativité restreinte, où on commence à comprendre que, par le fait que la vitesse de la lumière dans le vide joue un rôle fondamental, un rôle d'invariant fondamental, l'espace et le temps perdent leur caractère absolu, il faut donc les marier dans une structure géométrique quadridimensionnelle, On a donc un espace-temps qu'on appelle l'espace-temps de Minkowski, qui date de 1908, mais qui est aussi un espace-temps qui n'a pas de courbure. Alors, les théories physiques qui fonctionnent dans ce type d'espace, d'approximation, c'est évidemment la mécanique classique, newtonienne, la mécanique galiléenne, qui fonctionne dans la géométrie euclidienne, ou la relativité restreinte, mais aussi de larges branches de la mécanique quantique. Par exemple, si vous voulez décrire le mouvement quantique des électrons, ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique, vous faites fonctionner ces théories dans un espace-temps plat qui, finalement, n'a pas une forme très intéressante, car les anatomies plates ne sont pas très intéressantes. Alors le niveau supérieur, le niveau, dirais-je, macroscopique, à l'échelle au moins du système solaire, mais encore mieux des étoiles, voire des galaxies, et même de la cosmologie de l'univers dans son ensemble, eh bien on voit apparaître une courbure de l'espace, et même une courbure de l'espace-temps lui-même. Alors, on utilise donc une autre branche de la géométrie, qu'on appelle la géométrie différentielle, qui permet de décrire précisément des espaces courbes. Alors, vous avez déjà eu une conférence de Bourguignon sur les espaces courbes. Et selon que l'on considère plutôt l'espace à très très grande échelle, à l'échelle cosmologique, on va plutôt avoir une courbure relativement douce, une courbure constante. Et si on regarde au contraire la forme de l'espace au voisinage d'objets très massifs, par exemple au voisinage d'un trou noir, on va avoir une très forte courbure, qu'on appelle les champs gravitationnels forts, tout cela dans le cadre de la relativité générale. À l'extrémité inférieure de l'échelle, on est arrivé récemment à des hypothèses. En fait, on ignore tout de la forme de l'espace et du temps à ces échelles-là. Il y a plusieurs pistes qui sont suivies et qui concernent en fait l'un des grands enjeux de la physique, dont on a dû également vous parler, qui est l'enjeu de l'unification des interactions fondamentales actuellement connues, et qui consiste en fait à unifier les trois interactions décrites par la théorie de la mécanique quantique en termes de théorie des champs, et à unifier la gravitation, l'autre interaction, qui elle est décrite en termes de géométrie, c'est-à-dire en termes de courbure de l'espace-temps. Donc ce sont deux cadres de pensée assez différents. L'unification totale des interactions tente de marier ces deux points de vue extrêmement éloignés l'un de l'autre, et en fait on a réalisé depuis longtemps que c'est un enjeu extrêmement difficile et un but extrêmement difficile à atteindre, et sans doute, parmi les nombreuses pistes suivies, il y en a qui sont particulièrement fascinantes, mais elles sont obligées de remettre à plat, en fait, tout ce que l'on connaît, si je puis dire, remettre à plat tout ce que l'on connaît, c'est sur l'espace et le temps, et à imaginer, par exemple, dans le cadre de théories de supercordes avec des dimensions supplémentaires, ou dans les théories de géométrie non commutative dont a dû vous parler Alain Cohn, d'imaginer un espace-temps peut-être granulaire, qui n'est même plus lisse, qui n'est même pas continu, un petit peu comme à la surface d'un océan, vu avec la résolution maximale, qui produit en permanence un bouillonnement de vagues avec des gouttes qui se détachent de l'océan, et donc on a une structure spatiale extrêmement complexe et également une structure temporelle très compliquée. Mais en fait, moi essentiellement, je vais vous parler aujourd'hui des deux niveaux supérieurs. Donc le niveau supérieur, c'est le niveau vraiment de la forme globale de l'espace. Si vous voulez, le mollusque universel, on peut, à l'échelle intermédiaire, voir s'il a des cornes, des creux, des bosses, etc. Mais on prend du recul et on le regarde de loin. Et on se pose la question sur la forme globale de ce mollusque. Est-ce que c'est un escargot, une limace, un calmar, enfin je ne sais quoi. Ce sont évidemment des métaphores. Et donc, l'espace peut apparaître extrêmement différent lorsqu'on le regarde avec de très très loin. Et donc c'est une nouvelle discipline qui est née il y a seulement quelques années, qui s'appelle la topologie cosmique. Donc les trous noirs dont je vais commencer par vous parler concernent plutôt cette partie-là, et je finirai sur la topologie cosmique et les univers chiffonnés pour parler de considérations sur la forme globale de l'espace. Alors si l'on peut parler de forme d'espace, c'est parce qu'en fait on a quitté le cadre utilisé pendant plus d'un siècle de description de la physique, qui était le cadre de l'espace newtonien, dont vous voyez ici une vue d'artiste en quelque sorte, qui est un cadre d'espace et de temps fixé une fois pour toutes, parcouru, donc qui est plat, qui n'a pas de courbure, qui est parcouru par des rayons lumineux qui tissent la trame de l'espace et du temps, et ces rayons lumineux filent en ligne droite et tissent une sorte de grand système de coordonnées cartésiennes rectilignes. À l'intérieur de ce réseau universel, il y a des corps célestes, par exemple, qui obéissent aux lois de la mécanique céleste, et pour expliquer la nature courbe des trajectoires, par exemple les ellipses suivies par les planètes autour du Soleil, il faut forcément faire intervenir une force qui va dévier les trajectoires des corps massifs par rapport aux lignes naturelles, aux pentes naturelles de l'espace, qui sont les droites. Dans la conception relativiste, donc essentiellement la théorie de la relativité générale d'Einstein, 1915, eh bien, on a au contraire un espace et un temps couplés, premièrement, ils ne sont pas distincts, ils sont couplés, mais ils sont couplés aussi avec la matière. Et la matière va conférer, localement tout au moins, une forme à l'espace et au temps. Et on a donc une nouvelle entité, espace-temps, à quatre dimensions, qui est une entité à la fois souple, élastique et dynamique, c'est-à-dire qui va évoluer au gré du temps, au gré des mouvements des corps massifs qui s'y trouvent, parce que ces corps massifs vont non seulement engendrer de la courbure, s'ils se déplacent, ils vont déplacer la courbure, et la courbure qui se déplace va engendrer des ondulations de courbure que l'on appelle des ondes gravitationnelles. Alors pour donner un petit peu plus de chair, ou plus exactement plus de visualisation à ce tissu élastique de l'espace, je vous ai apporté ici un petit morceau d'espace-temps élastique que je réduis pour le besoin évidemment de la visualisation à deux dimensions. Donc, comme toute métaphore et toute analogie, elle a ses limites, il ne faut pas imaginer que l'espace qui est au-dessus et au-dessous a une quelconque pertinence dans ma démonstration. On s'en tient uniquement à des êtres bidimensionnels qui vivraient sur cette surface. Donc, comme je vous le disais, dans la conception newtonienne ancienne, on a un cadre rigide tissé par les trajectoires de rayons lumineux, si bien que si je veux expliquer le fait que, si j'ai une étoile là, par exemple, mon étoile que je pose au milieu du système solaire, on n'affecte pas le cadre élastique de l'espace-temps. Et donc, si j'ai une petite planète, enfin, elle est assez grosse, celle-là, vous remarquerez, c'est plutôt un Jupiter, pour expliquer que ma planète tourne autour du Soleil selon une ellipse, je suis obligé d'invoquer une force d'attraction universelle qui va retenir cette bille et l'empêcher de suivre les pentes naturelles qui sont des droites. La vision einsteinienne est tout à fait différente. Vous voyez, en fait, le changement de paradigme admirablement simple, à première vue, c'est un petit peu plus compliqué quand on passe aux équations, c'est qu'en fait, eh bien, la réalité est plus proche de cela, c'est-à-dire que tout corps massif engendre autour de lui, dans le tissu qui devient élastique de l'espace et du temps, une courbure qui peut se visualiser par les trajectoires des rayons lumineux au voisinage de cette masse. Et pour expliquer la trajectoire d'une planète, eh bien, en fait, on fait un calcul et on trouve que la planète n'est soumise à aucune force de gravitation. Elle épouse naturellement la forme incurvée de l'espace. Elle suit des droites dans un espace courbe. Les rayons lumineux font de même. Bon, un petit peu tout le contenu, enfin une bonne partie du contenu de la relativité générale se trouve dans cette analogie du tissu élastique. Alors donc, on voit déjà apparaître la notion de forme au voisinage des corps massifs. Et quand on va passer à l'échelle de la cosmologie, et à l'univers dans son ensemble, il faudra visualiser un immense tissu élastique avec un grand nombre de billes réparties, qui seront des étoiles, qui seront des galaxies, des amas de galaxies, et qui vont non seulement conférer une forme globale, par exemple une courbure constante, positive ou négative, mais vont conférer également à l'espace-temps une dynamique, c'est-à-dire que le contenu matériel de l'univers à l'échelle cosmologique va faire évoluer le tissu élastique, qui va être en expansion ou en contraction.
Alors, vous imaginez très bien que si je mets une étoile plus massive que le Soleil, que je dois avoir dans mon cartable, voilà, donc je mets une étoile un peu plus grosse, elle engendre une courbure qui est un peu plus développée dans l'espace, et puis, également, les équations d'Einstein nous disent qu'en fait, le degré de courbure ne dépend pas vraiment de la masse, mais plutôt de la concentration de masse, c'est-à-dire la densité. Et ici, j'ai une bille, effectivement, de même taille, mais elle est plus massive, comme vous allez le voir, et comme malheureusement, mon tissu va s'en apercevoir. Et donc, la courbure au voisinage de ce corps, beaucoup plus massif et beaucoup plus concentré, est beaucoup plus grande. Eh bien, les trous noirs, parce qu'il faut même que j'y arrive tout de même, mes trous noirs, eh bien, c'est la conséquence logique de cette visualisation. Le trou noir va être encore si concentré, par exemple si massif, ou pas nécessairement massif, mais alors très dense, qu'il va creuser un véritable puits dans le tissu élastique de l'espace-temps, un puits si profond que les particules s'approchant trop près d'une zone critique qui va être le bord du puits vont être irrémédiablement capturées. Et quelle que soit leur énergie, même si elles circulent à la vitesse de la lumière, ce qui est le cas des photons, les particules de lumière, ces particules-là vont être irrémédiablement capturées par le puits et ne pourront plus sortir. C'est cela la vision relativiste du trou noir. Simplifié, certes. Alors, en fait, le concept de trou noir capture les rayons lumineux, c'est donc un astre invisible. Il avait été en fait imaginé bien avant l'avènement de la théorie de la relativité par deux astronomes, qui s'appelaient Mitchell et Laplace, à la fin du XVIIIe siècle, qui, dans le cadre de la théorie de l'attraction universelle, s'était simplement interrogé sur la possibilité qu'il puisse exister dans l'univers des astres si massifs que ce que l'on appelle la vitesse de libération à la surface, c'est-à-dire la vitesse minimale, avec laquelle il faut lancer un objet pour que cet objet puisse échapper définitivement à l'attraction gravitationnelle, donc cette vitesse de libération puisse atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière, auquel cas ils ont conclu à juste titre que ces astres étaient nécessairement invisibles, puisque même les rayons lumineux éventuellement émis par cet astre retomberaient à la surface de cet astre, un petit peu comme le jet d'eau d'une fontaine, sous leur propre poids en quelque sorte. Et ils avaient donc calculé le premier prototype de ce qu'on appellera beaucoup plus tard, en 1968 seulement, le terme de trou noir. À l'époque, ils appelaient ça donc un astre invisible. Ils avaient calculé qu'un corps ayant la densité de la matière ordinaire, qui est la densité de l'eau, 1 gramme par centimètre cube seulement, mais qui avait une masse de 10 millions de masses solaires, ce qui correspond donc en fait à un rayon d'à peu près 250 fois le rayon du Soleil, eh bien ce corps-là serait invisible, car il emprisonnerait les rayons lumineux. C'est aujourd'hui ce que l'on appelle un trou noir géant, un trou noir supermassif. On le verra, on pense que ces trous noirs-là existent au centre de pratiquement toutes les galaxies. Et vous voyez déjà par cet exemple que la densité moyenne d'un trou noir n'est pas nécessairement très élevée, puisque vous prenez une immense sphère d'eau de 10 millions de fois la masse du Soleil, et vous avez déjà les conditions pour faire un trou noir. Alors, un peu plus tard, avec la relativité générale, un chercheur qui s'appelait Schwarzschild est revenu sur ce concept, et il a écrit une formule qui lie en fait le rayon critique en dessous duquel une masse donnée, M, c'est la seule formule que je vous montrerai, une masse M, si elle est confinée à l'intérieur de ce rayon, creuse un véritable puits gravitationnel dans l'espace-temps et crée le trou noir relativiste. Et l'on voit ici donc des unités qui donnent le rayon en fonction de la masse normalisée à la masse du Soleil. Cela montre donc que si la masse du corps est égale à la masse du Soleil, le rayon critique c'est de 3 km. Cela implique que si l'on voulait transformer le Soleil en trou noir, il faudrait, dont le rayon est de 700 000 km, il fallait le réduire simplement à une boule de 3 km. On peut jouer ce jeu un peu fantaisiste, parce que le Soleil ne se transformera jamais tout seul en trou noir. On peut jouer ce jeu avec la Terre, par exemple, et la Terre, il fallait la réduire à l'intérieur d'une bille de 1 cm seulement. Évidemment, la Terre n'aura jamais une évolution naturelle la conduisant à l'état de trou noir. Alors la théorie des trous noirs s'est développée assez péniblement tout au long du XXe siècle dans le cadre de la relativité générale. Elle a toujours suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup de mystères, et cela me rappelle un vieux conte persan du Xe siècle qui raconte qu'un jour les papillons tiennent une vaste assemblée parce qu'ils sont tourmentés par une question qui les taraude et n'ont pas de réponse, c'est le mystère de la flamme. Alors donc chacun propose son idée sur la question, et le vieux sage qui préside l'Assemblée dit « Écoutez, je n'ai rien entendu de très satisfaisant, peut-être que la meilleure chose à faire, ce serait d'aller voir de près ce qu'est la flamme. » Alors un premier papillon se porte volontaire, il s'envole en direction du château le plus proche, il passe devant une fenêtre, et au-delà de la fenêtre, il voit une simple bougie allumée, alors il revient très excité, il raconte à ses compagnons ce qu'il a vu. Et le sage répond « Tu ne nous apprends pas grand-chose. » Alors un deuxième papillon, encore plus survolté, se précipite vers le château. Cette fois, il franchit la fenêtre et il touche légèrement la flamme de ses ailes. Il revient tant bien que mal, très excité, il sent un peu le roussi, et il raconte à ses compagnons ce qu'il a perçu du mystère de la flamme. Et le sage lui dit « Tu ne nous apprends rien de plus ». Alors finalement, un troisième papillon, réellement survolté, va vers le château, il franchit la fenêtre et il se précipite sur la flamme, il fait corps avec elle, il disparaît dans la flamme, et le sage qui avait observé la scène de loin dit à l'assemblée, eh bien voilà, lui seul sait ce qu'il voulait savoir et il n'y a rien d'autre à dire, nous ne le saurons jamais. Alors c'est une parabole qui ressemble un petit peu au mystère du trou noir, parce que comme nous allons le voir, c'est vrai que le trou noir capture la matière, capture la lumière, capture l'information, et si quelqu'un s'aventure dans le trou noir, il ne pourra jamais ressortir pour relater ses découvertes. Mais c'est donc un mystère évidemment tout à fait fascinant. C'est bien la raison pour laquelle j'ai consacré une vingtaine d'années à ce sujet-là. Alors avant d'aborder quelques propriétés physiques étranges des trous noirs, c'est-à-dire la façon bizarre dont l'espace et le temps sont déformés au voisinage des trous noirs, tout d'abord, est-ce que ces objets-là existent ? Je suis quand même censé être astrophysicien, et donc de temps en temps,
on essaie de créer un rapport entre nos idées théoriques et ce qui existe réellement dans le ciel. Donc, est-ce qu'il est possible de détecter des trous noirs? Alors effectivement, tout d'abord, avant d'envisager cette possibilité, il faudrait comprendre comment les trous noirs peuvent se former. Parce que, bon, dans l'espace réel, hein, les tissus élastiques et les billes, c'est bien joli, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des étoiles qui évoluent. Alors, il y a une théorie de l'évolution stellaire qui s'est développée tout au long du XXe siècle et qui a abouti à un schéma général de l'évolution des étoiles en fonction de leur masse. Et donc, très rapidement, parce que sinon, ce n'est pas 50 minutes que je mettrai mes deux heures, très rapidement, en fait, le destin final d'une étoile, c'est toujours le cœur de l'étoile qui se met à s'effondrer sous sa propre gravité. Et il y a trois types de cadavres stellaires possibles. Pour les étoiles, la plupart des étoiles, 90% des étoiles, dont le Soleil, le destin final, c'est l'état de naine blanche, qui est encore assez condensé, à peu près de la taille de la Terre. Je n'insiste pas parce que vous aurez des conférences dessus. Pour 9% des étoiles, ou même 9,9% des étoiles, elles finissent, après une magnifique explosion de supernova, le cœur des étoiles se concentre sous forme d'une boule d'environ 15 km de rayon extrêmement dense, qui s'appelle une étoile à neutrons, et que nous avons détectée dans le ciel sous forme d'objets fantastiques et fascinants que l'on appelle des pulsars. Mais toujours la théorie de l'évolution stellaire prédit que si au départ une étoile est suffisamment massive, par exemple 20 à 30 fois la masse du Soleil, eh bien le destin final de cette étoile, du cœur de l'étoile, c'est de s'effondrer sans frein, sans limite, car en fait, quelle que soit la matière dont elle est constituée, rien ne pourra arrêter l'effondrement gravitationnel. Donc on comprend par l'évolution stellaire comment des condensations, des condensations de matière aussi importantes que celles nécessaires pour former des trous noirs peuvent effectivement se développer à partir de la vie des étoiles. Mais comme les étoiles très massives sont extrêmement rares, cela veut dire qu'en moyenne, il y a seulement une étoile sur 1000 qui a des chances, si on peut appeler ça une chance, de former un trou noir. Et comme notre galaxie a à peu près 100 milliards d'étoiles, ça veut dire qu'actuellement, dans notre galaxie, on suspecte l'existence de 100 millions de trous noirs dits stellaires, c'est-à-dire qui ont des masses stellaires. Et sur ces 100 millions de trous noirs stellaires, dont la plupart sont invisibles parce qu'ils sont isolés, les pauvres, mais certains sont visibles parce qu'ils vivent en couple. Ce n'est pas toujours bien tous les jours, mais dans le cas du trou noir, ça leur permet de briller. Parce qu'en fait, un trou noir qui est dans un couple stellaire va, par son champ gravitationnel, aspirer la matière de son étoile compagne. Et cette matière, avant de s'engouffrer dans le trou noir, elle va disparaître. Donc avant de disparaître, pardon, elle va être chauffée et briller, émettre une luminosité caractéristique dans un domaine de rayonnement de haute énergie, le rayonnement X. Et donc aujourd'hui, les trous noirs stellaires sont cherchés par des télescopes à rayonnement X dans des sources particulières qu'on appelle des sources X binaires, donc des systèmes d'étoiles doubles qui émettent des rayons X. Et donc aujourd'hui, j'en ai cité quelques-uns, il y a des candidats trous noirs, on en a répertorié une bonne douzaine de candidats trous noirs qui sont donc actuellement, très vraisemblablement, des trous noirs stellaires en train d'absorber du gaz arraché à l'enveloppe gazeuse de leurs compagnons. Et puis, pour en revenir au premier trou noir prototype imaginé par Laplace au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les trous noirs géants, eh bien, l'observation astronomique nous indique aussi que au centre de pratiquement toutes les galaxies, vous voyez ici un cliché du télescope spatial Hubble, vous voyez ici un zoom, un agrandissement du cœur de la galaxie, eh bien, au cœur de la galaxie, avec la résolution remarquable de ce télescope, on voit non pas un trou noir, le trou noir n'est invisible, mais on voit l'environnement d'un trou noir, c'est-à-dire cette structure en forme d'anneau, c'est un gigantesque tore d'accrétion, c'est-à-dire en fait une sorte de vaste assemblage de gaz qui se met avec cette forme caractéristique d'anneau autour d'un trou noir central, que l'on ne voit pas ici, mais en fait, donc, il y a un point brillant, car les régions intérieures de ce tore d'accrétion sont violemment chauffées à mesure qu'elles disparaissent dans le trou noir. Et c'est par ce modèle de trou noir galactique que l'on explique en particulier la luminosité extraordinaire qui est libérée par toute une catégorie de galaxies qu'on appelle des galaxies à noyaux actifs, dont les plus spectaculaires sont les quasars, les objets intrinsèquement les plus lumineux de l'univers, et que donc on peut observer aux confins de l'espace. Alors, bon, au cours de ma longue carrière, je me suis aussi en particulier intéressé au destin d'étoiles ayant l'infortune, par le jeu de la mécanique céleste, de se détacher de leur amas et de frôler la surface d'un trou noir géant. Et puis donc, nous avons découvert par les équations, ça n'a pas encore été observé, le phénomène que nous avons appelé la crêpe stellaire, c'est-à-dire nous avons découvert que, comme l'espace en fait est étiré au voisinage du trou noir, eh bien, l'étoile épouse naturellement la forme de l'espace étiré, et l'étirement est tel que l'étoile est aplatie violemment en quelques fractions de seconde sous forme d'une crêpe, et à partir de là, c'est une crêpe flambée, car effectivement l'étoile explose. Et puis après, les débris de l'étoile peuvent effectivement alimenter le trou noir pour libérer beaucoup d'énergie. Et puis, un autre aspect qui m'avait profondément intéressé, en fait, c'était la première question que je m'étais posée à propos des trous noirs, objet par définition invisible, c'était la visualisation des trous noirs, alors non pas solitaires, puisqu'on ne les voit pas, mais donc entourés d'un disque de gaz mince. Et ceci, donc, est une image qui est le résultat d'une simulation numérique que j'avais effectuée il y a maintenant une vingtaine d'années à l'observatoire de Meudon, qui montre en fait un disque de gaz autour de l'œil noir central, c'est le trou noir lui-même. Tout ce paysage-là, éclairé de différentes façons, c'est le dessus du disque de gaz brillant, et le halo faible qui entoure le trou noir lui-même, c'est l'autre côté du disque, car les distorsions de l'espace sont tellement grandes au voisinage du trou noir que les rayons lumineux épousent des trajectoires courbes pour nous parvenir, et on peut voir à la fois le dessus et simultanément le dessous du disque d'accrétion. Alors en fait, la plus belle légende que l'on puisse trouver pour expliquer cette image obtenue par des calculs informatiques ardus, je l'ai trouvée plus tard dans un poème de 1854 de Gérard de Nerval qui s'appelle Les Chimères, et qui dit « En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'un orbite vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. » Merci pour Nerval, qui est un poète que j'aime beaucoup. Alors, physique des trous noirs. Alors c'est là vraiment que les trous noirs prennent toute leur ampleur, parce que les trous noirs c'est fascinant, parce qu'ils déforment l'espace et le temps dans leur voisinage, et puis on va aussi se poser la question de ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Alors commençons d'abord par l'extérieur. Eh bien le trou noir, comme tous les objets, il tourne sur eux-mêmes. Et un trou noir qui tourne dans l'océan de l'espace-temps, eh bien c'est un tourbillon, c'est un maelstrom, qui va entraîner l'espace-temps lui-même dans sa rotation. Donc, cette image-là, rapide, vous voyez, c'est l'extrapolation là, de mon tissu élastique, simplement il est percé par le trou noir, mais en plus le trou noir tourne sur lui-même, et le fait de tourner sur lui-même, il va entraîner l'espace-temps dans sa rotation, et donc il y aura des zones particulières où tout vaisseau spatial, par exemple, qui s'approche, sera inéluctablement entraîné dans le tourbillon du trou noir, jusqu'à ce qu'il parvienne à une zone critique, qui va représenter la frontière même du trou noir, et là l'entraînement sera si fort que le vaisseau spatial va nécessairement tomber au fond du vortex spatio-temporel, exactement comme dans un maelstrom marin. Et vous avez une très belle nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Une descente dans le maelstrom, qui décrit assez bien ce sort inéluctable, cette capture inéluctable de la matière entraînée dans un tourbillon. Alors ça illustre un petit peu la déformation de l'espace et l'étirement de l'espace au voisinage d'un trou noir, mais en relativité, on couple toujours l'espace et le temps, il y a donc aussi une déformation du temps. Alors, petite expérience, il y a deux frères, Jean et Pierre, qui sont des explorateurs intrépides, ils repèrent un trou noir dans un vaisseau spatial, et puis il y a Jean qui décide de prendre un module, de se détacher du vaisseau principal et de plonger dans le trou noir. Et Pierre reste tranquillement dans une orbite circulaire autour du trou noir pour observer la scène sur son écran de télévision. Parce que Jean, le voyageur intrépide, va se filmer avec sa caméra et va transmettre les images à mesure qu'il s'approche du trou noir. Donc voici les deux films qui se passent. Alors ça, c'est l'explorateur intrépide, c'est Jean, qui décide donc de plonger dans le trou noir. Il branche son chronomètre, et voici les images qu'il transmet. Alors, à un moment, il traverse la frontière du trou noir, il ne se rend compte de rien, et puis donc il poursuit son voyage. Alors vous voyez, il a esquissé un salut pour dire un dernier au revoir à l'humanité, parce qu'il sait qu'il ne reviendra pas. Mais enfin, donc, il franchit la surface du trou noir, il ne se rend compte de rien, il est un petit peu tiraillé par les pieds, parce que c'est vrai qu'il y a des forces de marée qui ont tendance à les tirer comme un spaghetti. Mais enfin bon, si le trou noir est suffisamment gros, il ne s'en rend pas compte tout de suite. Donc il franchit le trou noir, sans encombre. Parce que j'aurais peut-être dû vous dire qu'un trou noir n'a pas de surface dure, contrairement aux étoiles à neutrons ou aux naines blanches, puisque c'est un puits.
Et donc, simplement, le frontière d'un trou noir, c'est le bord d'un puits. Le bord d'un puits, on peut toujours l'enjamber, malheureusement. Bien. Alors maintenant, le deuxième film, c'est exactement la même scène, mais vue de loin, c'est-à-dire vue par Pierre. Alors au début, les films sont identiques, et puis à mesure que le film se déroule, le temps se gèle, le temps ralentit, le temps apparent, parce que ce n'est pas le vrai temps de Jean, c'est le temps vu de loin. Bien, le temps apparent se ralentit, et il se ralentit même indéfiniment, si bien que Pierre ne verra jamais Jean même atteindre la surface du trou noir. Ben, a fortiori, il ne verra jamais ce qu'il y a au-delà de la surface du trou noir. C'est un aspect spectaculaire de la déformation également et de l'élasticité du temps au voisinage des trous noirs. Alors la théorie des trous noirs s'est beaucoup développée dans les années 60-70, et notamment un théorème capital sur la théorie des trous noirs a été énoncé et démontré sur une échelle de 20 ans, et il se formule de la façon suivante, un trou noir n'a pas de poils. Alors ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que, quelle que soit la nature, la quantité de matière qui tombe à l'intérieur d'un trou noir, eh bien, le trou noir fait disparaître toutes les propriétés de la matière, par exemple la couleur, la forme, la constitution précise de la matière, le fait qu'il s'agit de particules, d'ondes, etc., pour ne retenir seulement que trois caractéristiques, les plus banales et les plus simples qui soient, qui sont la masse, le moment angulaire, la façon de tourner, si vous voulez, et puis la charge électrique. Et le trou noir nettoie tout le reste, les poils, justement. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, le trou noir, c'est franchement l'objet le plus simple de la physique. Hein, ça semble compliqué, mais en fait, c'est le plus simple de la physique, parce que c'est le seul objet qui est entièrement déterminé par la donnée seulement de trois paramètres. Et donc, il existe des solutions exactes de la théorie de la relativité générale qui décrivent exactement la structure de l'espace-temps engendrée par un trou noir. La théorie des trous noirs a connu un rebondissement intéressant au début des années 80, lorsque Stephen Hawking a découvert, par hasard, je dois dire, que les trous noirs microscopiques, car il peut exister aussi, au moins sur le papier, des trous noirs microscopiques, c'est-à-dire aussi petits qu'une particule élémentaire, et dans la masse de l'ordre de la masse d'une montagne, si vous voulez, eh bien ces trous noirs microscopiques sont régis plutôt par la physique quantique, et plus seulement par la physique gravitationnelle, et ces trous noirs se comportent à l'inverse des gros trous noirs. Au lieu de grossir inéluctablement en avalant de la matière, ils s'évaporent car ils sont fondamentalement instables. C'est le processus d'évaporation quantique des trous noirs qui suscite encore beaucoup d'interrogations. On ne sait absolument pas si les micro-trous noirs existent dans l'univers. Très probablement, ils n'existent pas. Donc c'est un objet théorique, mais dont l'étude en soi est extrêmement intéressante, car elle permet quelque part de commencer à tisser des liens entre les théories de la gravité et les théories de la physique quantique, qui sont justement l'un des enjeux de l'unification dont je vous parlais tout au début. Et actuellement, il y a certains modèles qui se développent, qui tendent à suggérer que lorsque le trou noir s'évapore, qu'est-ce qui reste dans l'évaporation? Est-ce qu'il reste un infini de courbures ou quelque chose de bizarre? Non, selon certaines théories, il reste un objet intéressant, qui est peut-être l'entité ultime de l'espace et du temps, qui s'appelle une supercorde. Alors maintenant, plongeons à l'intérieur du trou noir. Alors de deux choses l'une. Hein. Vous avez donc un corps massif, très massif. Alors de deux choses l'une, soit le tissu, il est pincé, il a un nœud, une courbure infinie, et donc l'espace-temps est bloqué au fond du trou noir, et donc toute la matière qui tombe dans le trou noir se rassemble, se tasse indéfiniment dans ce nœud de l'espace-temps qu'on appelle une singularité, soit... Et là où c'est formidable, c'est que c'est suggéré par certaines solutions mathématiques des équations de la relativité, soit en fait le fond du trou noir n'est pas bouché, il débouche sur un tunnel d'espace-temps que l'on appelle un trou de ver. Voilà, peut-être que le fond d'un trou noir n'est pas bouché et il relie en fait deux régions différentes de l'espace-temps, deux régions de l'univers. L'une serait un trou noir, l'autre serait une sorte d'anti-trou noir, qu'on appelle un trou blanc, ou mieux une fontaine blanche, qui serait reliée donc par une structure à topologie bizarre, qui ressemble à une poignée d'espace-temps, qui s'appelle un trou de ver. Alors, ça a fasciné beaucoup, non seulement les mathématiciens, mais aussi évidemment les écrivains de science-fiction, parce que ce trou de ver apparemment permettrait des sortes de raccourcis d'espace-temps, c'est-à-dire que si l'on pouvait emprunter ces entités, sans jamais dépasser la vitesse de la lumière, on utiliserait quand même des raccourcis d'espace-temps qui permettraient éventuellement de parcourir en quelques fractions de secondes des millions d'années-lumière séparant le trou noir et la fontaine blanche, et de même de voyager également dans le temps. Alors ce sont des spéculations assez fascinantes, des développements récents suggèrent que ce type
de poignées d'espace-temps ne peut pas se produire dans l'univers réel, c'est-à-dire que si un trou noir se forme réellement par l'effondrement gravitationnel d'une étoile, le trou de ver, aussitôt formé, il est détruit et il est bouché. Et donc, jamais aucune particule n'aurait le temps de passer à travers le trou de ver. En revanche, d'autres théories suggèrent que les trous de ver pourraient exister à l'échelle microscopique. Et il se pourrait que la structure ultime, la plus intime de l'espace et du temps, je faisais une analogie tout à l'heure avec la surface d'un océan bouillonnant, eh bien on pourrait imaginer en fait une myriade de trous blancs, trous de ver et trous noirs associés, tout ça, cela à l'échelle microscopique, fluctuant en permanence, et de temps en temps, il y aura toujours une probabilité non nulle pour qu'une particule, un photon, un électron, tout ce que vous voulez, emprunte transitoirement pendant quelques milliardièmes de seconde un trou de ver microscopique pour éventuellement remonter le temps. Il y a des théories très intéressantes là-dessus. Donc, voilà, la forme de l'espace commence à devenir un petit peu intéressante. Ce n'est plus la morne plaine euclidienne. Alors maintenant, nous allons passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire la description de la forme de l'univers dans son ensemble, et parler donc de cosmologie. Alors vous avez eu un très bel exposé de cosmologie hier avec mon ami Marc Lachaiseret, qui vous a parlé des modèles de Big Bang. Alors donc, je résume ici en fait les conclusions de la relativité générale appliquée donc à la description cette fois-ci du tissu universel dans son ensemble, c'est-à-dire le cosmos. Eh bien, à grande échelle, si je peuple mon tissu élastique non plus d'une seule bille, mais d'un grand nombre de billes, vous imaginez, réparties de façon à peu près homogène et uniforme, vous imaginez que la courbure engendrée va elle-même être uniforme, c'est-à-dire elle va être constante dans l'espace. Donc en cosmologie, le problème se simplifie considérablement, en cosmologie relativiste, c'est-à-dire que l'espace à grande échelle, il doit être à courbure constante. Donc c'est pas compliqué, il n'y a que trois cas. Soit cette courbure constante est positive, soit elle est nulle, soit elle est négative. C'est pour ça qu'il y a en fait trois grands types de modèles qui ont été découverts donc, par Alexandre Friedman et Georges Lemaître dans les années 1920-1930, et dont en fait ces modèles ont à la fois un comportement spatial, c'est-à-dire l'espace peut être décrit par un certain type de géométrie, qui est tantôt une géométrie sphérique à courbure positive, tantôt une géométrie euclidienne, ou tantôt une géométrie hyperbolique à courbure négative, mais ils ont aussi, comme je vous le disais, une dynamique, c'est-à-dire un comportement temporelle. Et dans les versions les plus simples de ces modèles, où l'on néglige certains facteurs, on a les espaces sphériques qui sont en expansion-contraction. Ce sont des modèles fermés, à la fois fermés dans l'espace, mais également fermés dans le temps. L'univers naît dans un Big Bang, il est en expansion. Au bout de quelques dizaines de milliards d'années, l'expansion s'arrête et l'univers finit par s'effondrer sur son propre poids et se termine dans un Big Crunch. Au contraire, dans les cas euclidiens, qui est extrêmement particulier, et le cas plus général, le cas hyperbolique, l'expansion est perpétuelle, et même, en fait, l'expansion pourrait s'accélérer si on rajoute un terme supplémentaire dans les équations, qui s'appelle la constante cosmologique, ou encore, plus récemment, l'énergie du vide. Alors, à première vue, on pourrait croire que... donc, on a une description de la forme de l'espace à grande échelle. Hein, et on pourrait croire que l'une des questions de la cosmologie les plus anciennes qui porte sur le caractère fini ou infini de l'espace, eh bien, la relativité générale y répond. Parce qu'il est certain que tout espace de type sphérique, de courbure positive, il est de volume fini. On aurait tendance à croire que les espaces euclidiens ou les espaces hyperboliques sont infinis. Parce qu'effectivement, dans leur version géométrique la plus simple, ils sont infinis. Et c'est là où intervient une autre branche de la géométrie, qui s'appelle la topologie, et qui traite de la forme des espaces, non plus localement, mais globalement. Et la topologie, c'est une information supplémentaire sur la forme des espaces qui n'est pas contenue dans la courbure. Et nous allons voir maintenant, pour conclure, avec donc les modèles d'univers chiffonné, que l'on peut construire des modèles d'espaces cosmiques qui, quelle que soit leur courbure, bien peuvent être finis ou infinis, repliés sur eux-mêmes. Alors pourquoi ? Quelle est la différence entre courbure et topologie ? Je vous le montre tout de suite. Avec ceci, qui est un morceau de plan euclidien. Mon plan euclidien, c'est une surface à deux dimensions, une fois de plus, pour visualiser. Oui, mais enfin, vous avez quand même reconnu la formule, j'espère. Ça va mieux ? ça c'est pour le dyslexique. Voilà. Ça a l'air d'aller. Bon, ben, vous savez que l'espace euclidien, pour mesurer qu'il est euclidien, on fait des expériences de géométrie locale. On trace par exemple un triangle rectangle et on applique et on voit si le théorème de Pythagore est valable, hein, le carré de l'hypoténuse, etc. C'est ce qui est écrit en haut. Ou alors, on fait simplement des mesures angulaires, on mesure la somme des angles de triangle, de n'importe quel triangle, hein, pas nécessairement rectangle, et on trouve que cette somme est exactement égale à 180 degrés, et l'on est certain que l'on vit dans un espace de courbure nulle, c'est-à-dire un espace euclidien. Très bien. Est-ce que l'espace euclidien à deux dimensions, c'est nécessairement le plan? Eh bien non. Je découpe dans le plan une bande à longueur infinie. Voici les bords de ma bande. J'ai des points sur ma bande là. J'ai un point P ici. Eh bien, je vais décréter que ce point P, c'est le même que le point P' sur le côté opposé. Le point Q, c'est le même que le point Q'. Et ainsi de suite, je fais cela pour tous les points. Autrement dit, j'identifie les deux bords de ma bande, je les colle, et j'obtiens une nouvelle surface qui est un cylindre. À la surface du cylindre, le théorème de Pythagore est toujours valable. Le cylindre est donc une surface euclidienne de courbure strictement nulle. Alors vous allez me dire, mais monsieur, le cylindre est courbé, parce que... Mais ça ne marche pas ça. C'est une courbure extrinsèque qui n'a rien à voir avec la surface elle-même. Il est courbé simplement parce que j'ai utilisé un espace fictif, qui est notre espace de visualisation, pour vous montrer le cylindre. Mais le cylindre, il n'a pas besoin de l'espace extérieur pour exister en tant que cylindre. Bon, le cylindre, il existe en tant que cylindre et il est parfaitement plat. En revanche, donc sa métrique, la façon de mesurer les distances, c'est la même chose que le plan euclidien. En revanche, il y a quelque chose de fondamentalement changé par rapport au plan. Si vous circulez dans le cylindre dans ce sens-là, vous revenez à votre point de départ. Ça veut dire que au moins dans une direction, le cylindre, il est fini. Ce qui n'est pas du tout le cas du plan. J'ai donc changé de topologie. J'ai changé une propriété globale de l'espace en faisant un découpage et un recollage. Alors je peux même aller plus loin. Maintenant je coupe mon cylindre, clac, clac, et j'identifie les deux cercles. Je fais une opération, je transforme ma surface en quelque chose qui ressemble à une chambre à air, et qu'en mathématiques on appelle un tore. Mais lorsque je fais cette opération d'identification, je crée un tore qui n'a pas de courbure, un tore plat. Donc j'aurais pu vous sortir un anneau, mais je saurais pour vous montrer à quoi ressemble un peu le tore, une surface avec un trou, mais j'aurais un peu triché parce que l'anneau réel plongé dans notre espace, il a de la courbure. Tandis que le vrai tore plat construit par collage des bords opposés d'un rectangle, il est fondamentalement plat, il est euclidien. Vous voyez la surface de ce tore, vous faites toutes les mesures de géométrie possibles et imaginables, vous êtes dans un espace euclidien. Et cette fois-ci, le tore est entièrement fermé dans toutes ses directions. C'est une surface parfaitement finie. D'ailleurs, vous le voyez là. Vous voyez ? J'ai mon carré, je coupe, j'identifie les points. D'abord, je fais d'abord un cylindre, je recoupe, j'identifie, et j'ai cette surface, voilà, qui est en fait fondamentalement plate. Alors maintenant, ben voilà, j'ai mis deux galaxies. Par exemple, la nôtre, la Voie lactée, dans laquelle nous sommes pour faire des observations, et une galaxie lointaine, en jaune. Eh bien, dans le plan, j'observe cette galaxie extérieure dans une direction donnée, à une distance précise, mais dès que je fais des collages et des recollages, que je crée de nouvelles topologies, eh bien en fait, je vais avoir une démultiplication des trajets des rayons lumineux, c'est-à-dire des droites, en fait, qui relient les deux galaxies. Parce que non seulement je vais avoir ce trajet-là, qui va me donner une image directe, mais je vais avoir, par exemple, un rayon lumineux qui va partir par là, et puis qui va continuer ici, c'est en fait le rayon lumineux, vous voyez, qui fait un tour, comme ceci, hop là. Et ainsi de suite, tous les rayons lumineux qui vont faire différents tours, à la fois du grand cercle et du petit cercle, vont être des droites de mon tore, et vont donc me donner des images multiples de la galaxie. Donc si je vis dans un espace, dans une surface torique, qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois ça. C'est-à-dire un espace apparemment très très grand, voire infini, et qui est constitué en fait de la juxtaposition d'une cellule fondamentale, la même. Et donc j'ai une mosaïque qui se répète avec une infinité d'images pour toutes les galaxies, des sortes donc d'images fantômes. Alors c'est cela un petit peu, cette idée appliquée aux espaces tridimensionnels, quelle que soit leur courbure, des choses beaucoup plus compliquées évidemment que des tores, qui a engendré les modèles, j'ai appelé donc les modèles d'espaces chiffonnés, qui peuvent parfaitement être utilisés pour décrire l'architecture invisible de l'espace à très très grande échelle. Alors je vous montre par exemple une vue d'artiste assez intéressante, qui montre un espace chiffonné hyperbolique. C'est-à-dire c'est un espace qui est localement hyperbolique, qui est parfaitement fermé sur lui-même, et si on vit à l'intérieur de cet espace, on a l'impression de vivre dans un espace déplié, un petit peu comme un cristal hyperbolique, c'est-à-dire un cristal dont la cellule fondamentale serait cette belle figure-là qui s'appelle un polyèdre régulier, qui est en fait le dodecaèdre que vous voyez là. Ça, c'est l'espace réel. À l'intérieur, vous avez les galaxies, les amas de galaxies réels. Et puis en fait, par le jeu de l'illusion d'optique, c'est-à-dire la démultiplication des trajets des rayons lumineux, on a l'impression de voir le cristal se déployer, et donc de voir un espace extraordinairement plus grand, un espace des apparences plus grand que l'espace réel. Alors, on crée, avec les univers chiffonnés, une sorte de mirage, qu'on va appeler un mirage topologique, puisqu'il va démultiplier les images des sources réelles. Alors ça ressemble un petit peu à des mirages déjà bien connus et bien répertoriés, qui s'appellent les mirages gravitationnels. Vous savez que donc la courbure de l'espace au voisinage de corps massifs qui se trouvent sur la ligne de visée d'un objet plus lointain situé juste à l'arrière-plan, donc la courbure démultiplie les trajets des rayons lumineux et on voit donc des images fantômes dans la direction du corps massif intermédiaire qui joue un petit peu le rôle d'une lentille gravitationnelle. Alors là, vous voyez par exemple un exemple de mirage gravitationnel pris donc par le télescope spatial Hubble. Les quatre pétales du trèfle sont les quatre images d'une seule et unique galaxie qui est en fait un quasar extrêmement lointain qui est situé à l'arrière-plan de cet objet central qui, lui, est une galaxie spirale beaucoup plus proche. Et la galaxie spirale déforme dans son voisinage l'espace et le temps, démultiplie les trajets des rayons lumineux qui viennent de l'arrière et nous donne donc ce mirage gravitationnel. Mais vous voyez que le mirage gravitationnel, ça a à voir avec la courbure locale de l'espace. Si mon tissu élastique, je ne sais plus où il est mon tissu élastique, il est là, voilà. Si mon tissu élastique, je regarde un objet lointain, j'ai sur la ligne de visée un corps massif, forcément les images fantômes, elles sont regroupées dans la direction de ma lentille gravitationnelle. Maintenant, ce dont je vous parle, c'est un mirage topologique. Ce n'est pas un corps particulier qui va déformer l'espace. C'est l'espace lui-même qui joue le rôle de sa propre loupe, de sa propre lentille. Donc, vous imaginez très bien que les images fantômes, les images multiples engendrées par un mirage topologique sont réparties dans toutes les directions du ciel, dans toutes les directions de l'espace et également dans les directions du temps, c'est-à-dire dans les directions du passé. C'est-à-dire que l'ensemble des images topologiques ou des images fantômes, pour être plus spectaculaire, d'une source donnée, elles sont distribuées sur toute la voûte céleste, mais également elles sont distribuées dans toutes les tranches du temps. C'est comme si on avait un gigantesque album géographique historique de l'univers, nous permettant non seulement de voir les objets sous toutes leurs orientations possibles, mais également à toutes leurs phases, leur stade d'évolution possible. Alors justement, ce mirage topologique, ça pose la question, si l'architecture secrète de l'espace est de cette nature, et ça c'est décrit très précisément par des modèles mathématiques, par exemple, donc ça s'appelle l'espace de Seyfert-Weber, qui est un espace donc à courbure constante négative mais fermée, eh bien, quand on regarde une région du ciel avec le télescope spatial où l'on voit des myriades de galaxies, on peut réellement se poser la question si l'architecture secrète c'est ça, si parmi donc ces milliers de galaxies, il n'y a pas justement un effet de mirage topologique, c'est-à-dire que certaines de ces galaxies ne sont que des reflets, ne sont que des images fantômes de galaxies plus proches. Alors ces idées peuvent paraître étranges et elles sont apparues relativement tard sur la scène cosmologique, ce qui est un petit peu étrange car en fait beaucoup de cosmologistes en fait ne considéraient que l'aspect courbure et ignoraient beaucoup de l'aspect topologique et en fait les développements mathématiques sur la classification topologique des espaces s'est fait tout au long du XXe siècle, et particulièrement pour les espaces hyperboliques, ça s'est développé au cours des 10 dernières années. Donc effectivement, ce genre d'information n'a pas été rendu disponible très tôt. Alors on aimerait bien savoir, enfin moi en tout cas, si l'espace est chiffonné, c'est-à-dire comment le détecter dans le ciel, parce que là pour l'instant ce sont des jolis modèles, des jolies théories qui font peut-être un peu rêver, mais on aime évidemment se confronter à la réalité. Alors pour tester la topologie de l'univers, eh bien on va essayer de voir s'il y a par exemple des objets ou des structures qui se répètent s'il y a des schémas qui se répètent, par exemple. Et donc, on a développé des méthodes d'analyse statistique de tous les objets appartenant à l'espace observé, l'espace des apparences, et essayer de voir si cet espace des apparences ne se comporte pas comme un cristal. Donc, on a appelé ça la cristallographie cosmique, qui essaie donc de tenter de repérer des répétitions de structures dans la distribution des objets lointains. Et puis, la deuxième source d'information de première main que l'on a sur le cosmos, c'est le rayonnement fossile, dont Marc a dû vous parler hier, c'est-à-dire qu'en observant les fluctuations de température très fines du vestige refroidi du Big Bang, et si vous voyez les fluctuations de température dans toutes les directions du ciel, si l'espace est chiffonné, on doit trouver des corrélations particulières dans certaines zones du ciel, des corrélations de température qui prendraient l'aspect en fait de paires de cercles. On appelle ça la méthode des paires de cercles corrélés. Si vous avez l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, vous avez des paires de cercles corrélés. Par exemple, celui-là est corrélé avec celui-là. Et le long de ce cercle-là, la fluctuation de température, la variation infinitésimale de température, est exactement les mêmes le long de ces deux cercles. Ce serait un indice d'une topologie chiffonnée de l'univers. Ce genre de projets expérimentaux, c'est en cours, à la fois la cristallographie cosmique et la détection de paires de cercles dans le ciel, mais pour l'instant, les observations ne sont pas assez fines pour tirer une conclusion, et dans quelques années, on aura à la fois des sondages du ciel suffisamment profonds, et d'autre part, des observations du fond diffus cosmologique suffisamment fines grâce à l'envoi de deux satellites, un américain MAP lancé l'année prochaine et un européen Planck lancé dans quelques années, qui donneront donc des informations suffisamment précises sur le fond diffus pour tester cette hypothèse d'univers chiffonné. Pour terminer, je citerai encore une fois un écrivain, un poète, l'Argentin Jorge Luis Borges, qui dans sa superbe nouvelle « La bibliothèque de Babel » que vous avez sans doute lue, nous rappelle la chose suivante. L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération, bordés par des balustrades très basses. De chacun des hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs. Interminablement, la distribution des galeries est invariable. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie, car si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ? Merci.